Carnet de route, une émission proposée par l'ASBL Samarcande. Le carnet de route, une heure d'antenne pour les ados. Bonjour à tous, et nous voilà dans une émission Carnet de route, aujourd'hui en compagnie de Cannibal. Et je vous rappelle que le Carnet de route, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le souhaitent de s'exprimer en toute liberté pendant une heure. C'est le jeune qui choisit tous les thèmes dont il a envie de parler aujourd'hui. Et pour cela, on se voit une première fois dans les studios de Samarcande pour une préparation. Et aujourd'hui, on se retrouve une deuxième fois, mais pour un enregistrement. Alors ouvrez bien grand vos oreilles pour cette émission qui va durer à peu près une heure, en compagnie de Cannibal. Bonjour Cannibal.
Bonjour.
Cannibal, comme je viens de le dire dans le petit générique, on s'est vu hier pour la préparation. Et est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment toi tu as vécu ce moment de préparation et ce que l'on a fait ?
Ben, c'était bien quoi, je me vidais donc voilà. Et j'ai parlé avec Christian qui est là. Et on a parlé de beaucoup de choses, hein, sur de mon vécu, de ma mère et aussi un peu sur la religion et aussi sur le vécu de mon père.
Pour ta présent...
Et sur la rue aussi.
Et sur la rue. Cannibal, pour ta présentation, tu as 17 ans, tu vis à Bruxelles et du côté de...
Anderlecht.
Et pour commencer, parce que toi, ce que tu aimes dans tes passions, dans te... enfin, il y a des choses que tu aimes bien faire, et notamment, tu écris des textes.
Ouais.
Et tu m'as demandé pour te présenter aussi, de, tu as réalisé un petit texte. Mais ça, c'est sans instru.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Est-ce que tu veux toujours le faire ?
Ouais.
Je t'écoute.
Je suis un jeune parmi tant d'autres qui n'a qu'une seule chose en tête. Et même si on me l'ôte, j'aurai encore ces quelques lettres. Le rêve te pousse à avancer. Et malgré les on-dit, j'ai envie de les laisser me guider. Même si les gens me voient comme un délinquant, je ferai tout pour changer à présent. J'aurai besoin de soutien. Merci Imma et Ba pour tout ce que vous avez fait de bien pour moi. Je l'oublierai pas. Ce que je veux, c'est plaire à mon père, à ma mère, sans pour autant faire le délinquant. Car ce serait hypocrite de ma part de vouloir faire le type droit et la caillera en même temps.
Merci Cannibal. Et dans ton texte que j'entends, celui-là je l'avais pas entendu hier, parce que tes textes, tu les as portés aujourd'hui.
Ouais.
Et j'entends que tu parles du jugement des autres aussi, tu parles de délinquance, et tu parles du regard de tes parents.
Ouais.
Et par rapport à la délinquance, est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ça ?
Ben ouais.
Parce que est-ce que tu te considérais avant, est-ce que tu as eu des... Tu as failli comme ça...
Tomber dans la délinquance.
Oui.
Ouais, pendant un moment, ouais. Mais on a su m'arrêter à temps, quoi. À m'ouvrir les yeux, quoi. Que c'est pas ça la réalité de la vie, tout ça.
Et quand tu parles de réalité de la vie, Cannibal.
Ben, la réalité de la vie, c'est pas les jeux, là, GTA et tout ça. C'est pas on est un gangster, on commence à voler, tout ça, on a de l'argent comme ça. Faut travailler, tout ça, honnêtement, pour avoir son argent et tout ça. Et c'est ça qu'on m'a dit.
On t'a dit, et est-ce que t'as eu comme un déclic à un moment ?
Ouais, parce que en fait, moi, j'étais fasciné partout par les films de gangsters et tout ça. Moi, je me voyais comme ça, parce que je voyais qu'ils avaient de l'argent, qu'ils étaient respectés, qu'ils avaient des femmes partout. Et puis alors, on m'a expliqué que c'était pas ça la vraie vie. Enfin, il y a des gens qui vivent comme ça, mais ça dure pas très longtemps. Soit ils sont morts, ou bien soit ils sont en prison après. Et voilà, j'ai pas envie de me retrouver comme ça.
Et quand tu dis, on m'a expliqué, c'est tes parents qui t'ont expliqué ?
Mes parents, mes proches, tous ceux qui me voulaient du bien, quoi.
Et autour de toi, t'avais aussi des gens, dans tes copains, dans tes connaissances, qui ont essayé de t'aider.
Ouais, quelques-uns, mais ouais, deux ou trois.
Est-ce que tu penses que c'est aider un jeune que de lui dire que la délinquance et tous ces faits ne sont peut-être pas bien ?
Ben, on passe tous par là, de toute façon. C'est ça. On passe tous par là et il faut tester les choses de la vie pour avoir un caractère et tout ça. Voilà.
Donc dans ce que tu dis, tu dis que peut-être pas l'effet de grosses délinquances, mais les vols, parfois les petits vols ou des choses comme ça, c'est des choses que vous devez vivre à un moment dans votre vie d'adolescent.
Ouais, mais on doit pas vivre obligé avec ça, mais comment dire? Ça te met du plomb dans la tête, quoi. Après, tu sais, tu as de l'expérience, voilà. Après, tu, comme ça, si tes enfants et tout ça, tu leur expliques que c'est pas bien, mais même s'ils vont dans ce chemin, après eux aussi ils auront de l'expérience et tout ça. C'est ça.
Et dis-moi, Cannibal, t'es pas obligé de répondre mm-hmm. à mes questions, mais mm-hmm. qu'est-ce qui pousse à un moment un jeune à aller à chaparder un MP3 dans un magasin, par exemple?
Ben, parce que soit il a pas de l'argent, et il a envie de se le procurer parce qu'il a envie, parce qu'il a envie d'un MP3. Ou soit parce qu'il a envie de faire le caïd devant ses potes, et voilà, il a envie de montrer qu'il a des
ressources, quoi. Ouais. Qu'il ose.
Ouais, qu'il ose, voilà. Mmh. C'est un dur. Et moi, c'est ça que je faisais.
Et toi, si je peux me permettre, Cannibal, tu sais que moi, je vais à la rencontre de beaucoup de jeunes qui sont dans les IPPJ.
Ouais, ouais.
Et donc, ça veut dire qu'à un moment, eux, quelqu'un les a arrêtés, et... Enfin, voilà, c'est la justice, c'est le juge à jeunesse, mmh. c'est la police, ouais. qui à un moment a dit stop aux jeunes et l'a placé... Apparemment, pour éduquer le jeune, il faut ouais. comprendre ces choses-là. Mm-hmm. Donc toi, tu as évité ce chemin-là, quoi. Ouais.
Attends.
Et qu'est-ce que tu penses, toi, des jeunes qui sont dans les IPPJ? Est-ce que tu en connais?
Ouais, j'en connais beaucoup. Et voilà, quoi. Quand il y en a, ils rentrent comme si c'était comme ici, quoi, comme Samarcande. Ils rentrent, ils sortent, ils s'amusent. Et il y en a, ils rentrent, puis ils me disent plus jamais. Moi, je retourne là, quoi, parce que j'ai compris. Et il y en a, eux, il y en a qui en ont rien à foutre, ils retournent, quoi. Mm.
On revient dans tes sujets, mmh. Cannibal. Et à un moment, tu m'avais dit, je veux faire ce CD et raconter un peu ma vie, mmh. surtout pour essayer que mes parents me comprennent plus.
Mmh.
Tu te souviens de ça?
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Parce que t'as l'impression que par moment, quand tu parles à tes parents, ils sont peut-être pas là pour t'écouter ou qu'ils t'écoutent
ouais.
pas tout à fait.
Ouais, parce que je voulais aussi faire CD parce que mon père, il voulait aussi savoir qu'est-ce que j'avais en tête, quoi. Et donc là, je vais me vider et tout ça, et puis après, voilà. Comme ça, il sait vraiment ce que j'ai dans la tête, comment je pense et tout ça.
Parce que t'arrives pas tout le temps à lui...
Ouais, j'arrive pas, par exemple, à aller vers lui et moi-même lui parler. C'est tout le temps lui qui doit me poser des questions, et même des fois quand il me pose des questions, j'arrive même pas à parler.
Voilà. Et avec les autres gens...
par exemple, quand j'ai déjà été chez des psys, et avec eux, ça va, quoi, je leur parle. Et voilà, mais, et puis le dire à mes parents, mais voilà...
Et le fait qu'il le raconte à tes parents ce mmh. que tu as dit, ce que tu as dit au psy, ouais. est-ce que toi tu es d'accord avec ça?
Ouais, ouais, ouais.
Donc, tu sais pourquoi tu y vas, tu sais, ouais. parce que comme ça tu
moi,
pourras...
je veux qu'il le sache, mais quand je suis avec mon père, j'arrive pas en fait à lui parler, je sais pas pourquoi. J'arrive, peut-être c'est l'orgueil, je sais pas.
L'orgueil?
Ouais.
Après, Cannibal, tu m'avais proposé un récit de vie très court, mmh. je sais pas si tu te souviens.
Mmh.
Et alors, tu m'as parlé d'un accident que tu avais eu à 5 ans.
Ouais.
Et tu, voilà, tu étais parti de ça.
Ouais, j'avais 5 ans et je jouais dans la cuisine. Je jouais à cloche-pied et à un moment j'allais perdre mon équilibre. Et je voulais m'accrocher à quelque chose. Je me suis accroché sur la casserole d'eau bouillante et elle est tombée sur ma main. Et ma mère, elle était sous la douche et mon père, il dormait. Et il m'a entendu crier. Il croyait que je jouais ou bien que je faisais des bêtises et il m'a donné une baffe. Mais après, quand il a vu que je m'étais brûlé, après, il m'a mis la main sous l'eau et tout ça. Il m'a soigné. On est à l'hôpital. Et par après, il m'a dit qu'il s'est excusé, quoi. Parce qu'il avait pas fait ça. Parce qu'il avait pas vu que je m'étais brûlé, en fait.
Mmh.
Il croyait que j'avais fait le con dans la cuisine.
Et je peux te poser une question par rapport à ça. C'est pourquoi t'as choisi ce moment, ce petit accident, pour débuter ton récit de vie?
Ben, je sais pas, parce que. Parce que je sais pas, peut-être qu'il m'avait... Je sais pas, ça m'est passé par la tête direct comme ça.
Mm-hmm. Et par rapport à ça, parce que là tu me parlais de la réaction de ton papa, mm-hmm. tu étais venu à parler de tes parents,
mm-hmm.
et tu me disais, tes parents, ils étaient déçus par les comportements, les choses que t'as pu faire avant.
Ouais.
Mm. Et par rapport à ça, est-ce qu'ils essayent plus de te parler maintenant?
Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout le temps maintenant.
Il voit que tu es dans des démarches positives, c'est ce que tu me disais.
Ouais, ouais. Ouais, bah, j'ai été renvoyé d'une école et tout ça, et maintenant mon père il m'a dit, t'as 17 ans, c'est toi qui cherches, moi je cherche plus pour toi, et maintenant comme il voit que je fais des efforts pour chercher moi-même, et voilà, il est content, enfin il est content, ouais, il voit que j'ai envie de changer, donc je crois que je remonte dans son estime, quoi.
Il voit que t'es plus positif aussi.
Ouais. Mmh.
Parce qu'avant t'étais plutôt négatif.
Ouais, 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 très négatif même.
Tu sais, dans ce que j'entends souvent hein, chez les jeunes, hein, si tu ne veux pas que j'en parle, tu me le dis, hein, mm-hmm. Cannibal, mais il y a souvent un manque de confiance en soi de la part des jeunes. Même s'ils font des choses, hein,
mm-hmm.
mais ils disent ça à un moment où ils ont confiance, tu vois. Mais ça arrive très souvent, ça.
Mm-hmm. Ah.
T'as l'impression qu'autour de toi, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu dans la même situation, Cannibal?
Il y en a quelques-uns, mais Mes potes, eux, non, eux, ils sont, eux, ils se voient comme ça, comme je t'ai dit, ils se voient gangsters et tout ça, parce que, je sais pas, ils veulent pas changer de mentalité. Même moi, quand des fois j'essayais de me ranger et tout ça, je leur disais que c'était pas ça le droit chemin, tout ça, que c'était pas le bon mouvement, quoi. Et ils disent non, c'est ça et tout, voilà.
Et ils restent copains avec toi quand même?
Ouais, maintenant, enfin, c'est un copain, quand je les croise, c'est bonjour, au revoir et c'est tout, je traîne plus avec eux, sinon, je sais très bien que je vais me faire, je vais aller avec eux et tout ça. Et je vais vouloir faire le kite.
Et tu seras influencé à ce moment-là.
Ouais.
Et par rapport à l'école, Cannibal, tu me disais, je préférais m'amuser que d'aller à l'école à ce moment-là. Mm-hmm. Mais tout à l'heure, je me souviens, avant qu'on commence, tu m'as parlé de cours de latin que tu avais eu en général.
Ouais.
Et tu m'avais dit, ah, monsieur, je me sentais bien avec ces cours-là et j'avais même de bons points.
Mm-hmm. Ouais. Mais j'étais un peu plus jeune aussi, hein, j'avais 12-13 ans. Puis après, quand je suis parti en troisième, je faisais le type qui allait dans la cour des grands, quoi. Je voulais faire le grand, le petit frère qui veut grandir trop vite. Hein. Et je commençais à traîner avec des plus grands que moi. Moi j'avais 12-13 ans, je venais d'arriver en troisième. Et je traînais avec des grands et tout ça. Puis après, je commençais à fumer avec eux et tout pour faire le grand. C'est tout. Et voilà. Et c'était du shit et tout ça.
Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben après, j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à suivre tellement j'étais défoncé, quoi. Je dormais en classe ou bien même des fois je vomissais. J'étais vraiment en chute, quoi.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as été renvoyé de l'école?
Ouais, à la fin de l'année.
Et ça, c'est l'année passée?
Ouais.
Et par rapport à ça, maintenant, tes démarches, c'est, tu m'avais dit, je vais essayer de trouver un sas que t'as trouvé.
Mm-hmm.
Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un sas?
Un sas, c'est un service d'accrochage scolaire. Et ben tu vas te présenter là-bas, tu leur expliques ta situation, puis par exemple tu leur expliques ta situation, puis ils vont mettre des choses en place pour que tu recommences pas, te mettre dans la tête que l'école c'est un outil qui fabrique des citoyens, et voilà, et que à la fin de ta sixième t'as un diplôme, quoi. Et voilà, et après quand ils voient tout ça, après ils contactent des écoles et tout ça pour savoir s'il y a encore de la place et tout ça. Et des fois, les écoles, elles veulent pas accepter, mais quand ils voient qu'on est suivi, par exemple, par un sas ou bien des trucs comme ça, ben, ils disent, ah, ce jeune, il veut changer, il a été dans une association pour se faire aider, justement, pour plus recommencer. Et donc, ils acceptent plus facilement.
Quand tu parlais tout à l'heure de devenir un citoyen, mm-hmm. ça voudrait dire quoi, être un citoyen?
Ben, quelqu'un qui travaille et pas ces gens-là dans la rue qui zonent toute la journée à rien faire, par exemple, poser sur des poteaux ou bien rester au feu rouge toute la journée. Quelqu'un qui travaille, qui fait quelque chose justement de sa journée. C'est ça un citoyen pour moi.
Ouais. Et si je te dis par exemple, être un citoyen, c'est aussi être autonome, savoir vivre, faire ce qu'on veut et être heureux.
Mmh. Ouais, tout à fait, ouais.
Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est ça.
Mais la première réaction, c'était de ne pas zoner dans la rue, de trouver quelque chose à faire ces journées.
Mmh. Ben, y en a, ils sont dans la rue sans chercher du boulot, quelque chose, c'est ça. Ça que je veux dire. Et y en a, ils sont aussi dans la rue et qui cherchent du boulot, ça. Ça, c'est aussi des, ceux qui veulent devenir citoyens.
Mmh. Pour le moment, tu vis pas chez tes parents, hein.
Ouais.
Tu vis chez ta grand-mère, ouais. C'est ça. Avec ton grand-père, tu fais du fromage.
Ouais.
C'est ce que tu m'expliquais tantôt. Ouais. Et comment ça se passe, la transition?
Avec mes grands-parents?
Ouais.
Ouais, c'est super. C'est tout le temps eux qui sont là comment dire, quand des fois ma famille, vraiment, les autres, mes oncles et mes tantes, ils me cassent ou bien des trucs comme ça, eux, ils reviennent chez moi, ils m'expliquent gentiment que c'est pas bien et tout ça, parce que eux, ils m'expliquent, mes tantes et tout ça, ils m'expliquent aussi, mais plus trash. Tandis qu'eux, ils m'expliquent à leur façon, gentiment, et voilà, quoi.
C'est pour ça que tu dis qu'ils te cassent. Quand ils me cassent, ça veut dire quand ils te font des remarques,
ouais.
Qui te plaisent peut-être,
ouais,
pas.
Ouais, voilà, qui me touchent, voilà, c'est ça.
Qui te touchent, donc ouais. Ça veut dire que tu les entends, ces remarques-là.
Ouais, ouais, ouais. Et des fois, ça me fait pleurer, quoi.
Je vais te proposer, avant que tu me parles de ta maman, si tu veux bien...
Cannibal.
Et tu vas encore interpréter un texte.
Ma mère, c'est ma drogue, sans elle, je suis en manque. Elle me manque, elle est ma vie, mon oxygène. Si tu me l'eau, tu m'asphyxies. J'ai besoin d'un grand bol d'air pour qu'elle sache que son fils a besoin de sentir la présence de sa mère. Et c'est ma chair, si elle m'a mise au monde, sous ses pieds, y'a le paradis. Je ferai le maximum pour que quand elle parte, elle me voit comme un homme pour te protéger. Ma mère, j'utiliserai les grands moyens, rien à foutre que le type fasse en face de moi. Fasse 10 fois mon poids, ça me fait pas peur. pour elle, je recule devant rien. Maman, je veux que tu saches que je t'aime et que j'ai la haine. J'aimerais tant plus souvent te sortir dans mes bras. Je suis en train de devenir fou, je sais plus où donner de la tête. Yima, yima, tu hachtini, tu hachtini. Impossible de t'effacer de mon cœur. Rajah, rajah, j'ai plein de choses à te raconter. Yima, yima, tu hachtini. Rajah, rajah, j'ai plein de choses à te raconter. Sans toi, je crois que je vais me jeter d'un haut d'un immeuble. Alors reviens avant que je fasse une erreur. Bah, je lui ai fait péter une durite. Il en peut plus, j'accumule connerie sur connerie. J'ai commencé à fumer du tushy pour oublier tous mes soucis. J'ai presque plus de neurones, je suis tout le temps stone. En classe, je n'arrache tout le temps. J'arrive pas à gérer ma dev, peut-être que c'est parce que c'est pas fait pour moi. Mais je me sens bien quand je suis loin. Mais ça dure qu'un laps de temps malheureusement. Et ça se termine souvent mal, balayer tes coups de tête. Mais je me plains pas, je t'explique juste ce qui se passe chez moi. Ima, ima, tu hachtini. Impossible de effacer mon cœur. Rajah, rajah, j'ai plein de choses à te raconter.
Merci beaucoup, Cannibal. Si je peux me permettre, c'est extrêmement sensible ce que tu dis là.
Mmh. Ouais. Et le refrain, ça veut dire maman, tu manques, reviens-moi.
Parce que ta maman, elle vit, elle est à Liège,
ouais,
c'est ça?
À Liège.
Et est-ce que tu peux expliquer ce que tu as envie d'expliquer un peu, ce qui s'est passé un moment pour que tes parents...
Mes parents, ils s'entendaient plus, quoi, et ça fait 10 ans qu'ils sont séparés. Pendant un moment, elle vivait à Bruxelles, à Schaerbeek, à près de Place Pavillon. Et comme excuse, elle a dit que Bruxelles, c'était devenu trop cher et tout, alors elle est partie à Liège. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais tes enfants, ils sont ici, et voilà, quoi. Mais elle a dit, ouais, mais c'est trop cher, je fais purée, l'argent, c'est plus important que tes enfants. Puis elle est partie, quoi. Et voilà.
Et t'aurais besoin de réponse maintenant par rapport à...
Ouais, moi j'ai envie qu'elle revienne à Bruxelles. Comme ça, je la vois plus. Comme ça, je viens direct chez elle à la maison et tout.
Et est-ce que tu vas parfois à Liège pour la voir?
Ouais, j'étais 2 fois.
Et comment ça se passe à ce moment-là?
Ben, c'est bien, ça se passe bien. Je la prends dans mes bras et tout. Toute l'affection que j'ai pas de ma mère, ben là, ben je le prends, quoi. Je vais chez elle, je lui fais plein de câlins et tout ça. Je lui dis que je l'aime et tout ça, voilà. Parce que quand j'étais petit, je n'osais pas montrer mes sentiments et tout. Mais maintenant, c'est ma mère. Elle a besoin de savoir que je l'aime et tout ça.
Et par rapport à ton papa, Cannibal, mm-hmm. Comme tu vis maintenant chez tes grands-parents,
ouais.
C'est les grands-parents du côté de ta maman ou ton papa?
De mon papa.
À un moment, ton papa, tu vas rentrer chez lui.
Ouais.
Et pourquoi maintenant, ton papa, il veut plus que tu vives...
Bah parce qu'il en peut plus, hein, parce que j'ai foutu trop la merde et j'ai plus d'école et il m'a dit tant que tu trouves pas d'école et tout, ben tu vas chez tes grands-parents parce qu'à la maison tu fais rien, alors au moins va chez tes grands-parents, là au moins tu vas les aider quand ils ont besoin de toi et quelque chose, et comme ça au moins t'étudies aussi, tu prends tes cours là-bas et t'étudies, parce que lui il veut que je retourne ici à l'école pour pouvoir au moins passer mes examens.
Et t'as l'impression d'écouter plus tes grands-parents que ton papa par exemple?
Ouais.
Et comment ça se fait ça?
Je sais pas, je les aime bien. Je suis attaché à eux, parce que j'ai vécu 2 ans avec eux quand j'étais petit bébé, et voilà. Et même beaucoup, hein, ils montrent beaucoup d'affection mes grands-parents. Quand par exemple mon père il me crie dessus et tout ça, ou bien qu'il me frappe, il leur dit ouais arrête, laisse-le et tout, voilà. Parce qu'ils disent que les coups c'est pas une solution et tout ça, voilà.
Et tu m'avais parlé un peu de ton papa, je sais pas si t'as encore envie de parler de son histoire à lui.
Bah ouais. Il a été en prison pendant 3 ans parce que il a fait un homicide involontaire, mais l'histoire c'est parce que c'était pendant le Ramadan et il avait 18 ans et il est sorti avec des potes pour rouler en vélo et sa mère elle avait comme une intuition que ce jour-là ça allait se passer mal et elle lui a dit sors pas et lui il est sorti et il est parti avec ses potes et tout, ils avaient un vélo cassé et il y avait un type du quartier, il avait un vélo neuf, ils lui ont demandé de lui prêter mais il voulait pas, donc ils l'ont fait descendre son vélo, ils ont pris son vélo, ils ont dit tiens garde celui-là, on revient. Ils sont partis faire un tour à la gare du Nord et le type là il a été à la police, il a dit ouais on m'a volé mon vélo, et alors ils ont dit au steward là, les types qui surveillent dans la rue là pour trouver les gens, Et ils leur ont dit, faites attention, il y a des petits cons qui font les malins et tout. Et alors, quand ils sont revenus à Gare du Nord, il y a les stewards qui sont venus leur faire un contrôle parce qu'ils avaient les vélos. Et eux, ils ont fait les caïds, quoi, ils ont répondu et tout. Ils disent, non, on va pas vous montrer notre carte et tout ça. Puis la police est arrivée, et ils avaient des chiens. Les chiens entraînés là pour t'attraper au testicule ou bien au rein. Mmh. Et alors, ils ont couru. Et le pote de mon père, il s'est fait attraper au rein. Et mon père, il était armé à ce temps-là, il avait un couteau, il a pointé le chien, et ils ont cavalé tous les deux. Et puis alors un policier a couru après mon père, et dans la poursuite, le policier a attrapé mon père, et ils sont tombés tous les deux, et mon père est tombé en premier avec le couteau en face de lui, devant lui, et le policier est tombé sur lui, et sur le coup il est mort, et puis alors, puis il y a eu 2 ans d'enquête pour savoir si c'était volontaire ou involontaire, et comme ça a été fructueux, quoi, ils ont su que c'était pas volontaire, il a purgé 3 ans, le 15 ans, et aussi il avait un bon entourage, il était bon à l'école et ça, donc ses profs sont venus l'assister au palais, quoi. Et donc il a purgé 3 ans, le 15.
Et tu me disais, il t'a juré qu'il n'irait plus jamais en prison.
Ouais. Ouais.
Et il t'expliquait un petit peu comment la vie c'était là-bas.
Ouais, il m'a dit que dans les douches, comment ça se passait avec la savonnette et tout ça. Il m'a dit aussi qu'il était respecté. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce qu'on faisait rentrer de la coke en prison. Et il m'a dit, moi, je la revendais à des gros baraquets qui, eux, me protégeaient quand j'avais des embrouilles dans les douches ou bien dans la prison. Et donc, il m'a dit, à un moment, je préférais la vie en prison parce qu'il en avait marre, il en était à bout.
Ça, c'est quand vous vous disputiez à la maison, c'est ça?
Ouais.
Il te disait, je préférais la vie que je menais en prison.
Ouais, parce que là, il était comme un roi, quoi. Mmh. De respecter tout ça, protéger même.
Et dis-moi, parce que je pense que c'est un message important aussi. Peut-être que je suis naïf, mais la prison, ok, c'est un endroit pour de punition, parfois de rééducation, mais j'en doute. Mais quand t'es en prison, normalement, tu dois être protégé à l'intérieur de la prison. Il y a un règlement, quand même.
Ouais. Mais c'est ça qui est triste, hein. Des fois, ils se réveillent pas, ils s'en foutent. Parce qu'ils croient que c'est des criminels, alors ils font « Ouais, on va les laisser entre criminels. » Maintenant, il faut tout le temps de la sécurité. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, les gens, si quand ils vont sortir, ils vont changer, ou bien si quand ils sortent, ils restent les mêmes, de toute façon. Donc, il faut quand même les protéger, parce que si après, ils veulent devenir quelqu'un d'autre en sortant de cette prison, ben, faut essayer de les laisser en vie, de réussir à les laisser en vie, quoi. Mmh. Voilà.
Et je t'avais posé une question à un moment, tu te souviens? Peut-être que ton papa va vraiment vouloir s'il écoute ça, mais je t'avais demandé, est-ce que t'as l'impression, est-ce que ton papa, il te renvoie l'image de quelqu'un d'heureux, tu vois, de positif?
Ouais, quand il est avec la famille, tout, il rigole et tout ça, mais quand je faisais mes conneries et tout ça, ben ouais, je voyais qu'il était pas heureux.
Et lui, est-ce que tu as l'impression que son passage... C'est une question que je pose aussi aux jeunes qui vont en IPPJ, hein. Même si l'IPPJ, c'est pas la prison. Mm-hmm. Mais parfois, le passage en IPPJ ou en prison, ça marque la personne. Et ils me disent parfois, j'ai l'impression d'avoir une étiquette sur le front, comme ça, qui me suit tout le temps. Est-ce que t'as l'impression que ton papa, il vit encore avec cette étiquette sur le front?
Plus maintenant, parce que, ouais, il m'a expliqué, quand il est sorti de prison à 21 ans, quand il allait se présenter à un travail, il lui disait, ok, ouais, d'accord. Montrez-moi votre papier de certificat de bonne vie de mœurs. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah non, tac, ils leur rendent des papiers, ils ont fait, on peut pas vous accepter. À chaque fois, ils retournaient, bonne vie et mœurs, bonne vie et mœurs, bonne vie et mœurs. Ça suit tout le temps, pendant au moins 10 ans. Et après 10 ans, il a payé des avocats pour que ça s'oublie, quoi, que ça s'efface. Et après ça, il a su trouver du travail. Mais ça suit pendant quelques temps, mais c'est pas écrit sur ton front que t'es un criminel ou quelque chose. Mmh.
Il travaille, ton papa, maintenant. Ouais. Il est.
Ouais, il travaille dans les bâtiments.
Et comment lui. Tu m'avais dit quelque chose par rapport à ça. Tu m'as parlé de la poussière dans les bâtiments. Tu te souviens de ça?
Ouais.
Tu te souviens de ce que tu voulais me dire?
Non.
C'est ton papa, c'était l'impression qu'il avait de son travail. Par rapport à toi, parfois tes bêtises. Tu te souviens pas?
Ouais, il m'a dit que quand il voyait que moi je faisais mes bêtises, il se revoyait lui. Quand lui aussi faisait ses bêtises. Et il a peur que je prenne le même chemin que lui.
Qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens qui pensent, enfin parce que moi j'entends beaucoup de gens parler de vous, enfin de la jeunesse en général, mais qui me disent que des parents qui ont commis parfois des faits, les enfants, ils vont suivre les mêmes voies que les parents. Ou par exemple, si c'est des parents qui boivent ou qui se droguent, les enfants vont passer par là. Ou par exemple, des parents qui sont violents avec les enfants sont violents avec leurs propres enfants. Hein? Toi, tu sais que tu as 17 ans, peut-être hein? t'es fort jeune pour parler de ça, mais qu'est-ce que t'en penses?
Ben, faut pas suivre le même chemin, quoi. Faut... Ben, il faut que quand tu grandisses et tout, faut pas commencer à te droguer parce que ton père s'est drogué, justement. Au moins, il verra que son fils, il est pas comme lui, et peut-être qu'il sera fier de lui, justement.
Et tu as. Tu me parlais de ta belle-maman aussi. Mm-hmm. Comment ça se passe avec elle?
Ben, quand j'étais petit, je lui répondais et tout ça, même un peu maintenant, mais maintenant je lui réponds plus. Parce que je vois que ça sert à rien, de toute façon. Elle me veut aussi du bien et tout, ça fait 8 ans que je vis avec elle. Mm-hmm. Et voilà. Maintenant, quand elle me fait une remarque, je lui fais ok, c'est tout, je lui réponds plus.
Cannibal, merci. Je vais te proposer une autre musique. Tu l'annonces?
C'est...
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les rêves, le père se lève le voile. Multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
La vie de rêve. La vie de rêve. La vie de rêve.
Et nous revoilà dans la caravane de Samarcande, toujours en compagnie de Cannibal. Alors Cannibal, ce qu'on vient d'entendre là, c'était...
Né sous la même étoile, I am.
Cannibal, j'ai retenu de petites phrases, j'ai tout écouté. Hein. Mm-hmm. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ben, comme je t'avais dit au début, c'est... Moi je crois que ça veut dire ça, c'est... C'est par exemple personne joue avec les mêmes cartes, c'est il y en a ils interprètent la vie comme je t'ai dit, les gangsters, ils ont un jeu de cartes et par exemple les gens normaux qui veulent travailler honnêtement et tout ça et voilà. Je crois que c'est pour moi c'est ça qu'ils veulent dire.
Mmh. Mais est-ce que t'as pas l'impression que au départ on ne reçoit pas tous le même jeu?
Si, on a tous le même jeu, c'est nous qu'on décide comment on le gère en fait.
Et quand il dit la vie est belle, personne ne s'en écarte.
Ben, ça, j'ai pas très bien compris.
En fait, j'ai pas pris la suite, hein. Peut-être que c'était dans la suite qu'on comprendrait ce qu'il voulait dire, mais déjà ça, moi, au départ, c'est plutôt optimiste, je trouve. Mmh. C'est de rester dans ce cap et de se dire que la vie est belle.
Ouais. Ah ouais.
Pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, ils ont raison, hein. C'est... Les gens, c'est eux-mêmes qui... Comment dire, ils se foutent dans la merde et après eux ils disent que la vie n'est pas belle. Mais non, la vie elle est belle. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation, c'est à lui de s'en sortir. Et là il dira à nouveau que la vie est belle.
Mmh. Et toi t'en penses quoi pour le moment?
Moi, ben, pendant un moment elle était pas belle. Enfin là, ça va quoi. Je suis en train de changer. Donc peut-être qu'elle sera belle dans le futur.
On reprend tes... Ce que je voulais dire aussi, ce que je dis ça souvent aux jeunes, et je pense que c'est important, Cannibal, mais si je te dis que t'as de l'importance, qu'est-ce que tu en penses de ça?
De l'importance? Envers qui?
Envers toi-même? Envers les autres?
Ouais, ouais. Ben... Je sais pas quoi dire.
On revient sur ta famille, et à un moment tu m'avais dit... Tu m'as parlé du voile dans la famille. Je sais pas si tu te souviens de ça.
Ouais.
Et je ne sais pas si c'était par rapport à ta maman ou ta belle-maman. Et tu me disais le voile, c'était pas une obligation. Il y en a qui le portent et il y en a qui le portent pas. Mm-hmm. Tu peux resituer la chose?
Ben, moi, ma mère, quand elle s'est mariée avec mon père, elle l'a porté parce qu'elle s'est mariée avec mon père. Elle l'a pas porté pour elle-même. Elle l'a porté pour mon père. Et voilà. Et le voile, c'est pas une obligation. On le met quand la femme, elle le met quand elle est prête. Et voilà.
Et ça veut dire quoi? Le mettre quand on se sent prêt.
Ben quand on a, quand, comme tu dis, quand on a plus confiance en soi et tout ça et qu'on se sent prêt à faire bien sa religion. Et donc on le met.
À faire bien la religion ou à comprendre la religion?
À la comprendre et à bien la pratiquer aussi.
Et quand tu me parlais de discrimination dans la famille, tu te souviens de ça? Parce que les gens, ils sont pas très contents quand sur les non-musulmans, je ne sais plus si c'était pas si, par rapport à ta maman. C'était ça?
Non, pas par rapport à ma maman. C'était ma belle-mère.
Ouais.
Ben, elle est chrétienne et mon père il est musulman et son mari et tout. Et enfin, ma famille elle l'accepte pas parce que elle est chrétienne. On n'a pas la même religion et elle porte pas le foulard, mais elle respecte nos convictions et tout ça. Quand on fait le ramadan, elle nous respecte. Quand on va prier, elle respecte. Et elle a même fait un jour de ramadan avec nous. Donc voilà.
Et toi, quel message tu pourrais faire à ta famille qui est moins allez, qui accepte moins ta belle-mère par rapport au fait qu'elle soit non-musulmane?
Ben, je sais pas, moi.
C'est par rapport à la différence,
hein. Ouais, sûrement. Ben, il faudrait qu'il la laisse venir au moins une fois pour l'apprendre à mieux la connaître, justement. Et là, si par exemple il voit que ça va pas, là il pourrait lui dire non, on ne vient pas, mais sinon, ben, il est la bienvenue, pour moi.
De la juger sur sa personne, mais pas sur ce qu'elle représente.
Ouais, voilà. Ouais.
Ne pas la rejeter parce qu'elle n'a pas le voile, mais peut-être ne pas l'aimer parce que pour chacun d'entre nous, il y a des gens avec qui on s'entend et puis il y a des gens avec qui on s'entend moins.
Mmh. Ouais.
Voilà. Mmh. Tu m'as compris là parce que
j'ai compris.
Et au niveau des différences, cannibales, est-ce que tu penses que c'est important les différences chez les gens?
Ouais. Parce que on apprend plus de choses chez quelqu'un de différent de nous-mêmes. Par exemple, moi, on va dire, j'aime un truc et la personne en face de moi, elle aime aussi un autre truc. Ben, je vais chercher à savoir plus de choses sur elle. Pourquoi elle aime ça et tout ça, des trucs comme ça. Et vice-versa, si elle veut, mais si par exemple, elle veut pas savoir des choses sur moi et que, voilà, si elle veut pas, ben tant pis, je la laisse dans son coin.
Et est-ce que t'as l'impression que les gens, maintenant, ils ont peur des différences chez les autres?
Ouais, ouais. Beaucoup, ouais.
Par exemple?
Ben, justement, la discrimination du voile. Par exemple, ils vont voir une femme avec le voile, ils vont dire, ouais, elle fait partie, on va dire, d'un groupe islamiste ou des trucs comme ça. Ils vont pas chercher à la connaître mieux, à ses différences et tout ça, ses cultures. Alors que c'est important de savoir la différence des gens. Ce qu'ils ont dans la tête et tout.
Et pourquoi les gens, ils font plus ça? Ils prennent plus le temps d'essayer de comprendre et de connaître les autres?
Parce que, je sais pas, les mentalités les changent sûrement.
Ouais.
Et peut-être parce que aussi on leur a... Peut-être que les parents ont inculqué ça à leurs enfants depuis qu'ils sont petits, et voilà, qu'ils ont grandi comme ça.
Toi, est-ce que t'as déjà vécu des actes, par exemple, t'as jamais eu le sentiment de racisme ou ce genre de choses?
Si, si. Ouais. À l'école, la police, voilà.
Et comment tu réagissais? Qu'est-ce que tu ressens?
Je répondais et tout. Je leur disais, allez vous faire voir et tout, des trucs comme ça. Puis ils n'avaient pas bon. Je disais, t'as qu'à pas faire des trucs comme ça, me montrer que tu m'aimes pas. Si tu veux pas que je fasse ça.
Ouais. Mais si, tu es né en Belgique.
Mm-hmm.
Tu es belge.
Ouais. Mm-hmm. Belge d'origine marocaine.
Et tu te sens quoi? Non.
Moi, je me sens marocain.
Je t'avais posé la question aussi, on revient sur la religion.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de prier, par exemple?
Ben, c'est un équilibre pour moi-même. Si je prie, ben, c'est parce que j'ai mon créateur et je le crains. Je vais pas commencer à les voler alors que je prie. C'est pour m'empêcher de faire des choses mauvaises, quoi.
Et ça t'apporte un équilibre aussi.
Ouais, voilà, un équilibre. Ouais.
Celui qui ne croit pas en Dieu, est-ce qu'il peut être heureux et trouver un équilibre quand même?
Ouais, il peut être heureux, mais trouver un équilibre, mais dans quel sens?
Dans sa personne. Simplement être...
Ouais, non, parce que je suis pas dans la tête d'un athée, mais je suis sûr qu'il se pose des questions sur l'existence de la Terre et tout ça, comment elle s'est faite, même si les scientifiques, tout ça, ils prouvent ça par la science. Mais je suis sûr qu'il se pose des questions en se disant, est-ce que c'est Dieu, en voyant tous les croyants, il dit, ouais, celui-là, il croit, ben, est-ce que ça pourrait être Dieu? Je suis sûr qu'il se pose des questions comme ça. Et il y en a, je connais des athées qui sont devenus des croyants.
Quand tu me disais, c'est à Dieu de décider.
Ben, c'est à lui de décider si un athée va croire en lui ou pas.
Et s'il
ça peut attendre des années, ou même une semaine, ou même après un jour. Voilà.
Et s'il reste athée toute sa vie?
Ben, je sais pas. Je suis pas Dieu pour juger.
Et tu m'avais parlé de toutes ces explications et de ces réponses que tu trouvais dans le Coran, tu te souviens? Par rapport à la science, par rapport au conflit entre...
Les effets naturels et ça.
Ouais.
Ben, les tsunamis et tout ça, ils disent, waouh, comment ça se fait? Il y en a qui se disent, comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on a ça et tout? Ben, c'est mentionné dans le Coran. Par exemple, le chaînon manquant du singe, là, ben, c'est aussi mentionné dans le Coran. Tout plein de trucs scientifiques, c'est écrit dans le Coran aussi.
Cannibal?
Ouais.
Après ça, je te propose une autre musique.
c'est la vie qui veut ça. On vit des trucs de ouf.
Si dans ce texte tu te reconnais, tu sais qu'on n'a pas de guerre au regret.
Et nous voilà dans le studio pour carnet de route de
Cannibal.
Cette musique, vous êtes nombreux à la choisir. Mm-hmm. Donc on la diffuse assez souvent. Et après, ben les jeunes, ils s'expriment dessus. Et là, je suis en manque d'inspiration pour te dire ce que j'en pense, parce que je vais encore dire les mêmes choses. Et si tu veux que je te dise ce que j'avais dit à un jeune une fois, mm-hmm. ben, je lui avais dit par rapport à l'IM, peut-être pas celle-ci, mais ça y ressemblait un peu. Et je lui disais ce qu'on entend quand même dans ce qu'il dit, c'est quand même un peu l'enfer, quoi.
Ouais.
Parce que la vie, elle semble, ben, on peut pas dire. Enfin voilà quoi. On dirait vraiment un monde.
Mais lui, il a connu la bureaucratie, il l'a connu très jeune, lui. Hein. À 9 ans, il le dit dans une chanson, il fait à 9 ans déjà. C'est ça le titre de la chanson. Il l'a connu bien assez tôt, lui. Et c'est pour ça que lui, il est parti vraiment en sucette, je crois.
À l'époque.
Ouais, ou peut-être que c'est pas vrai ce qu'il dit aussi, hein, peut-être. Peut-être c'est pour faire le vantard ou quelque chose, hein, je sais pas.
Pourtant, tu m'as dit que les informations, t'en avais quelques-unes sur lui.
Mm-hmm.
Et quand je te demandais, mais comment tu sais toutes ces choses-là sur lui, tu me disais quoi?
Que c'était en interview.
Mm.
Il faisait des fois des interviews et tout. Et voilà, il disait que quand il faisait ses textes, eh ben, il est défoncé, quoi. Mm. Oh shit.
Et une chose, je vais peut-être pas à te le dire, mais je vais quand même te le dire. Comment il continue à faire de la. Enfin, qu'est-ce qui l'intéresse, à ton avis, à ce monsieur-là?
Lui. Je sais pas, lui, si en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout la célébrité, parce qu'il fait aucun clip, à part un seul qu'il a fait, c'était Je regrette pas en plus, c'est celui-là. Mm-hmm. Il a fait qu'un seul clip. Lui, la célébrité, il en a rien à foutre, lui, il veut se faire, son expérience, il veut la montrer aux jeunes, pour justement que les jeunes, peut-être que lui, quand il fait ses textes, peut-être qu'il les dit comme ça trash, pour dire aux jeunes, ouais, c'est de la merde, tout ça. Mais peut-être que les jeunes, eux, l'interprètent d'une autre manière, en disant, ouais, ce qu'il dit, c'est tout bien, on va le faire la même chose. Parce que quand il dit ça, on dirait qu'il nous incite à faire ça. C'est pour ça. Mais peut-être que lui, il veut pas, justement. Et peut-être que lui, il veut faire passer un message.
Eh oui, mais le problème, c'est que vous êtes beaucoup à me dire que certains ont commencé les conneries en écoutant.
Ouais, ouais, tout à fait. Il a eu des procès, je crois. Pour ça.
Mmh. Enfin, ce qui peut influencer un jeune, c'est pas que la musique. Hein.
Ouais.
Parce que je pense pas qu'un jeune. Enfin, je sais pas, mais tu me dis ce que t'en penses. Mais ouais. Que le jeune, il met son écouteur avec cette musique-là et qu'il va braquer un truc, quoi.
Non.
Je pense que c'est aussi les influences et...
Ouais, il y a aussi les films et tout ça, ou bien aussi dans la rue, hein, quand tu traînes avec des mauvaises personnes.
Et quand tu parles des films, parfois, toi, t'as l'impression d'être influencé par ce qui se passe à la télé.
C'est pas ça, je suis ébahi, je suis là, waouh, et tout ça. Parce qu'ils sont respectés dans les films et tout ça, et moi, je voulais faire la même chose.
Et tu dis, respecté dans les films.
Ouais.
Et un film, est-ce que c'est la réalité?
Non, justement, ouais, voilà.
Et dans les clips vidéo, par exemple? Dans les clips de musique, pardon.
Ouais, de rap. Là.
Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vois souvent dans ces clips-là?
Ben, L.I.M., il y a deux clips, en fait, qu'il a fait. Il y a aussi Nique lui sa mère. C'est un clip où est-ce qu'il parle des jeunes et tout ça. Il dit qu'il faut pas se laisser faire et tout ça. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Ça, moi, je me défends tout le temps quand il y en a un qui fait le malin. Et voilà, et il y a des autres clips, par exemple, il y a des clips aussi comme Trash et tout ça. Des autres mecs pas très connus. Qui aussi ils incitent à vouloir faire des trucs comme ça et tout ça.
Mmh. Qu'est-ce que tu leur dis à tous ces gens?
Allez, on va.
Quand ma famille est heureuse, je le suis aussi.
Ouais.
C'est ce que tu disais.
Mmh. Ben, quand je les vois qui sont fiers de moi et tout ça, ben ça veut dire qu'ils sont heureux, donc moi je suis bien. Et quand je vois qu'ils font une connerie et qu'ils sont dégoûtés de moi, ben moi-même je suis dégoûté de moi-même. Voilà. Et donc je fais tout pour changer. Et des fois je change pendant une semaine, deux semaines, un mois. Ils sont contents de moi, donc je remonte dans leur estime. Et puis après je repars en sucette, je retombe dans leur estime. Puis c'est comme une montagne russe, quoi. Je monte, je descends dans leur estime.
Un message à tes grands-parents?
Hanouna, Abi, Kenajbuk. Kenajbkum. Parle en arabe, c'est pour ça.
Là, je vois un truc sur le papier, c'était la fidélité envers ta...
À son mari.
Ouais, ou envers ta... L'homme fidèle, la femme fidèle.
Mm-hmm.
On avait parlé de ça?
Ouais.
Tu te souviens de ce que tu avais dit par rapport à ça?
Ben, j'avais dit que ça existait.
que c'est possible d'être fidèle toute sa vie à la même femme.
Ouais, moi je crois que c'est possible. Peut-être que je me trompe, mais moi je crois que c'est possible parce que moi, si je me marie, bah, je serai fidèle parce que j'aurai ma femme, je l'aimerai normalement. Et je vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs. C'est vrai qu'il y a plein de belles femmes et tout, quand on marche en rue, on en voit plein, comme je t'avais dit hier. Et ma femme, peut-être aussi, elle va avoir plein de beaux types et tout, mais voilà quoi, c'est naturel. Et moi, je veux pas aller lui dire pour la rendre jalouse ou pour l'énerver, pas faire, chérie, t'as vu, elle est belle celle-là. Si elle trouve un type beau, ben, elle le garde dans sa tête, pour elle. C'est aussi un respect, la fidélité. C'est parce que si tu t'es pas fidèle à ton homme ou bien à ta femme, c'est que tu la respectes pas, que t'en as rien à foutre de sa gueule.
Je remercie un cannibale de toutes tes réponses. Mmh. Et quand tu me parlais de... Tu vois, on a passé les musiques de L.I.M. Mmh. Ici, c'était Ayam. Oui,
ouais, Né sous la même toile.
Voilà. Et tu m'avais dit, ces chansons-là, elles ont du sens pour moi.
Ouais. Ben, Ayam, ben, elle dit que... En fait, elle compare avec deux types. Il y a un type, lui, il est né dans la galère et tout. Il fait tout pour sortir de la galère à sa façon, en vendant du crack et tout ça, de la coke. Ou des trucs comme ça, ils volent pour se nourrir et tout. Et l'autre, ben, on va dire que c'est le petit bourgeois qui sait se payer des études, qui va aller loin dans la vie, parce qu'en France, les jeunes de banlieue sont mal vus, et voilà. Donc, beaucoup de portes se referment sur eux. Mmh. Tandis que là, c'est un petit bourgeois, donc tout va s'ouvrir sur lui et tout, et tout le monde va bien l'aimer parce que c'est pas un délinquant, ils vont dire, et tout, des trucs comme ça. Voilà.
Et toi, t'en penses quoi de ça?
Ben, il a raison. Parce que quand on voit quand même aussi des reportages en France sur les émeutes et tout ça, et aussi comment ils sont traités, des fois quand on voit aussi les petits débats politiques, là, comment ils parlent des jeunes de banlieue, surtout là, Le Pen. Là.
Ouais. Toi, ça te marque aussi ces hommes politiques-là ils...
Ouais, ça me dégoûte.
Mmh. Il est très vieux, lui, bientôt il va...
Il va se faire...
Il va mourir de sa belle mort, peut-être. Et le plus important, cannibale... Mmh. C'est quoi pour un jeune? Est-ce que c'est... Moi, je pars du principe que tous les jeunes, ils ont la capacité de réussir, tu vois.
Ouais.
Enfin, voilà, quoi.
Pas moi, l'important pour moi. Pour moi, l'important, c'est de plaire à ma famille. De leur montrer que je peux être quelqu'un de très... Qui peut être quelqu'un qui peut aller loin. Très loin, même. Et s'ils sont fiers de moi, ben, moi, je suis content.
Mmh. Et surtout, être fier de toi-même. Mmh. Tu ne crois pas?
Ouais, ouais. Mais je sais pas, je crois que je préférais d'abord être. Qu'ils soient fiers eux de moi d'abord, que moi fiers de moi-même.
Ce serait comme un miroir à ce moment-là, comme ça tu sais que.
Ouais.
Avec leurs réponses.
Ouais, parce que si maintenant je suis fier de moi, mais que eux ils sont fiers, mais pas tout à fait, donc je préfère d'abord savoir si eux sont vraiment, vraiment fiers de moi, comme ça moi je peux être fier de moi-même. Yeah. Cannibale. On m'a dit que la vie était belle. Était-ce dans les années 60s où les hommes se disaient peace au lieu de fuck you bitch? Quand je vois tant de frères armés et tant de mères pleurer, je me dis que cette vie n'existera pas si on peut faire un premier pas, c'est-à-dire s'entraider au lieu de s'entretuer. Commençons par effacer George Bush en lui tirant une bastose dans la bouche. Non, je déconne, c'est pas le comportement d'une personne sensée qui réfléchit aux actes qu'il va poser. Une action a toujours besoin de réflexion. Quand je vois tant de frères couler, sombrer l'un après l'autre et voir des mères dire que c'est de leur faute. Putain, ça me donne envie de me tirer une balle dans la tête. C'est triste mais c'est la pure vérité. Je retrouve aussi par texte qu'il y a dans mon cœur, c'est-à-dire toute cette haine et cette peur.
Merci cannibal. Ça t'aide aussi d'écrire comme ça des textes?
Ouais, ouais. Je dis ce qu'il y a en moi quoi. Et des fois il y a vraiment des textes aussi qui sont trash comme Liam et tout ça. Mais ceux-là, je les publie pas, quoi.
Est-ce que t'as l'impression que tu peux canaliser comme ça parfois de la violence? Certains, ils iraient casser la gueule à quelqu'un.
Non, non.
Et puis toi, tu la canalises parfois en écrivant?
Des fois, ouais, en écrivant, mais des fois, j'ai vraiment besoin de me vider en tapant sur quelque chose, quoi, sur un sac de boxe ou quelque chose. De me défouler vraiment. Des fois, je tapais dans les murs avec mes mains et tout, parce que j'avais trop la haine.
Dis-moi, cannibal, je t'ai posé une drôle de question, je crois. Je suis plus sûr, mais pourquoi on est sur Terre, à ton avis?
Ben là, on est sur Terre parce que c'est une épreuve. On doit, malgré les difficultés qu'il y a sur Terre, ben on doit les franchir, les combattre. Et voilà quoi, et c'est fructueux à la fin quoi. Parce que pour un croyant, ben il y a le paradis et l'enfer. Et celui qui aura fait le bien, ben il a le paradis. Et celui qui a fait le mal, ben l'enfer. Et voilà quoi.
Il y a des jeunes, des gens et des jeunes qui disent ah ben le paradis c'est sur terre, et d'autres qui disent l'enfer c'est sur terre.
Ouais.
T'as déjà entendu ça?
Ouais. Ben ils ont raison aussi. Il y en a, ils ont la belle vie et tout ça. Enfin, même ceux qui ont la belle vie, des fois, ils disent que c'est l'enfer sur Terre, parce que, par exemple, quand on voit les guerres et tout ça, ben, c'est vrai que c'est l'enfer, quoi, aussi. C'est un avant-goût de l'enfer, on va dire. C'est pour montrer comment c'est, peut-être, en enfer, je sais pas.
Je t'avais posé la question aussi, qu'est-ce que Dieu, puisque tu vois, tu crois en Dieu, qu'est-ce que lui, il penserait de tout ça? Parce que certains mettent en doute l'existence de Dieu, et ils disent comment il peut laisser faire tant d'horreurs sur la Terre.
Ben, c'est comme ça, c'est écrit. C'est le destin, quoi. C'est lui qui l'a décidé, et quand il voudra que ça changera, ben ça changera. C'est comme ça, c'est ça qui est dit dans le Coran.
Et les gens là-dedans, ceux qui décident parfois de commettre des guerres,
ouais.
Est-ce que c'est pas eux aussi à réfléchir un petit peu, à se calmer?
Ben ouais, tout à fait. Ça sert à rien, comme on dit, la violence, ça sert à rien, la violence ne résout rien.
Tu le penses vraiment?
Ben ouais, la violence engendre la violence, comme on dit.
Alors, je vais dire une phrase que ton papa te disait. C'est que, à la maison, je suis un mouton, et à l'extérieur, je mets ma peau de loup. Qu'est-ce que tu vas faire avec la peau de loup dans le futur?
Ben, je vais la mettre de côté.
Ben, je te remercie. Je te remercie beaucoup, Cannibal. On arrive à la fin de ton émission. Et alors, avant de finir, le sujet n'est peut-être pas très drôle, et puis on en a pas parlé, mais tu voulais parler de la drogue à un moment.
Ouais.
Et je vais juste te proposer, si tu veux bien, c'est de réaliser ton, enfin de dire ton dernier texte.
Ouais. Cannibal. Salem, devine qui c'est, tu ne sais pas, une chose qui a plusieurs aspects, t'as deviné, et ouais c'est moi la drogue, les gens se déchirent pour m'obtenir, et moi ça me fait zézir, une fois que tu testes le pédoro, tu deviens accro, difficile d'en sortir, c'est comme un tunnel sans fin, où tu vois que ton joint, vas-y, tire sur ce cousin, je fais partie de plusieurs familles, la mesa, le shit, la bœuf, tu me fumes, tu sniffes, c'est comme tu veux, j'ai aussi plusieurs formes. Yeah, la poudre, si tu me goûtes, ce sera direct le coup de foudre. Tu peux me sniffer ou même me liquéfier, mais la meilleure façon, c'est par injection. Je suis aussi sous forme d'herbe. Des fois, ton sûrement que tu portes pas et tu me gerbes. Première étape, on fume. Tu prends une feuille de riz là, t'extrais le tabac, t'effrites ton shit, tu roules le tout, tu mets dans ta cheboue, et puis tu tires. Et là, tu seras ce que voudra dire. Le mot fonce tes pieds deviennent légers. Des fois, tu supportes pas la dose que t'as mis dans ton pédo, et tu deviens impulsif jusqu'à même devenir agressif. Une chose est sûre, man, je subis, tous ceux qui me fument sont mes amis. Et ouais, une fois que tu rentres dans ma sphère, c'est fini, t'en sors pas. T'as voulu faire le fort, ben maintenant t'assumes, seigneur. En tout cas, mon prix vaut la vie, tous ceux qui... En tout cas, mon prix vaut la vie, beaucoup d'inconscients qu'on trouvera plus tard sous des draps blancs. J'avais oublié de te dire une chose, après m'avoir consommé comme un camé, tu fais une overdose.
Merci, Cannibal. Eh bien, on est maintenant à la fin de ton émission. Et puis, je vais faire comme avec tous les jeunes, Cannibal, je vais leur proposer un message de la fin. Enfin, c'est toi qui proposes un message pour finir. À qui tu veux?
Ben, à tous les jeunes. Ben, que ça sert à rien. Ben, on a beaucoup parlé de la délinquance et tout ça. Ben, ça sert à rien de faire ça, quoi, parce qu'on est mal vu, déjà. Et on a envie d'être vu par ses potes. Mais au final, en fait, on se retrouve tout seul. Et on veut être fier devant les potes et tout ça, mais le plus important, c'est la famille. Il faut rendre fier justement la famille.
Voilà. Je te remercie, Cannibal. Et puis, je vais te dire, je vais t'inviter à être heureux dans ton futur. Et puis, déjà maintenant. Et je te remercie beaucoup d'avoir participé au projet aujourd'hui. On va terminer avec une musique de I Am.
Ouais, petit frère.
Au revoir, Cannibal.
Au revoir.